On avait déjà des idées en fait de fils qu'on pouvait tester parce que du coup qui n'existaient pas sur le marché. Et on s'est dit naïvement en fait, parce qu'on fait pas partie du. Enfin, on a fait des études de commerce, mais pas du tout de textile. Donc je pense que c'est notre côté aussi un peu naïf qui a permis d'en arriver là, parce que nous on s'est dit bah, en fait c'est facile, on teste des fils qui sont hyper résistants, qui fonctionnent dans d'autres industries, juste il faut en faire un collant.
Oui, le fameux, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à
Ouais,
ça?
c'est ça,
Ouais, ok.
exactement. Et en fait, mais lui c'est curieux parce que quand on lui a proposé le projet aussi, il nous a dit mais j'y avais pas pensé en fait à essayer d'innover, de détourner une.
Parce que lui, il
Enfin,
avait des œillères, il était dans
ouais, pour
son.
lui, ouais, exactement.
Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour cet épisode spécial d'accueillir Inès Sadala, cofondatrice de la marque de collants français Signe, avec une mission intrigante et pourtant tellement inspirante, vendre le moins de collants possible au plus grand nombre. Pas courant d'affirmer voulant vendre moins, et on va en discuter en détail. En tout cas, j'adore le concept. Salut Inès.
Salut Julien.
Alors dans cet épisode, Inès, on va parler de plusieurs sujets ensemble. Les collants, évidemment. Tu vas nous expliquer pourquoi ces produits, quel constat tu as fait et pourquoi ce marché. On évoquera aussi ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat, comment t'es venu le déclic. On parlera d'entrepreneuriat, évidemment, en couple. Ce qui fonctionne et ce qui est plus compliqué au quotidien. On parlera de ta participation l'année dernière au concours Plug and Start organisé par la Technopole de l'Aube en Champagne. D'où vous en êtes aujourd'hui, de votre ambition et de comment vous comptez y arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. De branding aussi et de ton que vous utilisez pour présenter votre marque. J'adore notamment le Signe Lab, le club d'une communauté qui déchire tout sauf...
C'est collant.
Voilà, c'est collant. Un beau programme et un retour d'expérience qui, j'en suis sûr, va en aider plus d'un et plus d'une qui nous écoute. T'es prête, on y va?
Ouais, super.
Super. Alors, avant de commencer, juste, je tiens à préciser que cet épisode est rendu possible par la Technopole de l'Aube en Champagne qui organise le concours Plug and Start et soutient cet épisode. Vous avez un projet, vous souhaitez accélérer le développement de votre startup et gagner 3 à 6 mois sur l'avancée de votre entreprise, il est encore temps de candidater pour l'édition 2024 de Plug and Start pour faire partie de la vingtaine d'entrepreneurs qui investiront les locaux de la Technopole de l'Aube en Champagne. Cette année, c'est la 29e édition et c'est les 12, 13 et 14 juin 2024. Pendant 3 jours, vous pourrez tester l'offre d'accompagnement grâce à 45 dirigeants d'entreprises mobilisés afin de vous guider et vous conseiller. En parallèle, plus de 50 experts bénévoles représentant les multiples facettes de l'entrepreneuriat, du juridique au marketing en passant par le financier ou la communication, vous aideront à répondre à vos problématiques grâce à des solutions concrètes et adaptées à vos ressources. Plug and Start, c'est aussi des ateliers techniques, une grande conférence sur l'entrepreneuriat et l'innovation avec un invité de renom. L'année dernière, c'était au tour d'Éric Larchevêque, le cofondateur de Ledger et célèbre investisseur que vous connaissez et que j'ai accueilli sur ce podcast. Participer à Plug and Start, c'est l'assurance pour vous de repartir avec une roadmap structurée, une nouvelle vision de votre projet et de précieux contacts. De quoi donner un coup d'accélérateur décisif à vos startups. À vous de jouer. Première partie, comment t'as fait pour te lancer en couple dans l'entrepreneuriat? Alors ici, on va essayer de comprendre qui est la petite Inès qui grandit au fur et à mesure et qui ensuite devient entrepreneur. Ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre voilà, ton parcours, ton environnement familial, tes études et ce qui a fait que ben, maintenant, tu t'es dit, l'entrepreneuriat, c'est pour moi. On y va?
Oui, bah, la question est assez large.
Elle est large, tu commences par où tu veux.
Du coup, moi, je suis originaire de Reims, donc c'est là où j'ai commencé mes études. Donc collège, lycée, fac. J'ai commencé par la fac économie-gestion. Et ensuite, j'ai intégré l'école de commerce de Marseille, donc KEDGE.
D'accord, j'ai cru que tu allais me dire Reims.
Non, effectivement, je voulais absolument quitter Reims à l'époque.
D'accord.
J'étais jeune, un peu rebelle.
Donc Néoma, c'est pas pour toi.
Et ouais, non, Néoma, malgré que bah, j'étais acceptée. Mais c'est vrai que c'était très proche de ma fac, c'était en face. Donc voilà, je voulais changer d'environnement. Et aussi, j'étais convaincue par la junior entreprise de l'école de Marseille, qui m'a aussi beaucoup plu et que j'ai intégrée par la suite.
Donc dès le départ, tu savais que tu voulais aller dans la junior entreprise?
Oui. Bah, on avait du coup la présidente sortante qui faisait un discours lors justement des admissibles. Mmh. Et en fait, ça a été hyper catchy, hyper pertinent et ça m'a donné envie d'intégrer l'école.
Donc déjà, tu voulais entreprendre? Tu savais que tu voulais entreprendre?
Je pense que j'avais déjà un peu cette fibre sans le savoir vraiment. Mmh. C'est après que j'ai pris la décision en pleine conscience, on va dire. Mmh. Mais oui, je pense qu'il y avait ça faisait un moment que je voulais entreprendre.
Ok, donc tu décides d'aller à Marseille, école de commerce. Donc tu as suivi ce parcours qui t'a donné une vue 360 des entreprises. Combien de temps après t'as entrepris?
Du coup, j'ai quitté. En fait, j'ai fait 2 ans du coup d'école de commerce, donc la junior entreprise. Ensuite, je suis partie en stage de césure dans un cabinet de conseil en stratégie et marketing à Paris.
D'accord.
Et en fait, j'ai jamais quitté le cabinet. Donc, j'ai fait un stage de 6 mois, CDD de 6 mois pour finir la césure parce qu'ils pouvaient pas m'embaucher tout de suite. Et ensuite, CDI. Donc, j'ai fait mon master 2 en parallèle de mon CDI.
D'accord.
Et donc, en février 2020, j'ai eu l'idée de signe. Et donc, j'ai lancé.
Ok.
Enfin, on a
Bah,
commencé à lancer.
tu vas m'expliquer ça, comment est venue l'idée. Je voudrais revenir moi sur ton parcours et les études. Qu'est-ce qui a guidé justement ces études plutôt d'orienter commerce ou gestion d'entreprise?
Je pense que j'ai toujours eu une appétence pour le business,
D'accord.
vraiment de faire, ouais, voilà, de faire du commerce. Par exemple, j'étais fin collège et en fait, j'avais fait ce qu'on appelle maintenant un peu de dropshipping, mais en fait pas du tout en version digitalisée.
D'accord.
J'achetais des casques Beats et je les revendais à mes copains d'école.
C'était sur eBay, non?
Ouais, c'est
Ouais,
ça.
voilà, t'es démasqué, c'est bon.
Ouais. Et après, je les revendais directement au collège, après au lycée et après aux autres lycées de la ville. Bon,
D'accord.
j'ai arrêté, mais je
Pas
pense
très
que.
légal, tout
Non.
ça.
Mais si on m'avait présenté, je pense, comment construire un site,
Ouais.
je pense que voilà.
Ok, donc
Mais.
dès le lycée, ou collège même, tu dis,
Ouais,
t'as
fin
commencé à faire
collège.
ça?
Ouais, j'ai commencé à faire ça, mais quelques temps, hein. C'était vraiment très peu, quand même.
Mais et ça, du coup, tu sais d'où ça vient? T'avais quoi? T'avais un entourage ou des mentors entrepreneurs autour de toi
Non,
ou...
j'ai vraiment aucun entrepreneur dans mon entourage.
Ok.
Ma famille est plutôt, ça dépend, plutôt classique d'un côté, du côté de ma mère. Mon père est un immigré, donc il est né en Algérie, il est arrivé très tard en France. Et voilà, après, ils ont essayé de s'en sortir comme ils pouvaient. C'est vrai que nous, on a toujours été éduqués. Il faut bien travailler à l'école, il faut essayer de s'en sortir, il faut être indépendant financièrement. Et donc, je pense que c'est ce qui nous a drivé, enfin, c'est ce qui m'a drivé au
Ouais, ce
début.
discours, t'as construit,
Ouais.
t'as mené finalement vers le commerce et ensuite l'entrepreneuriat.
Exactement.
Ok, donc tout ça du côté de Reims.
Oui, tout ça du côté de Reims, donc après Marseille, puis Paris. Oui, au début, c'était Reims. Ouais.
Ok, et aujourd'hui, t'es basé où?
Et aujourd'hui, on est à Reims. En fait, on a fait l'école de commerce à Marseille, puis on a travaillé à Paris. Et au moment du confinement. Bah, c'était un peu, enfin, il y a eu plusieurs étapes hein, pour justement avoir ce déclic et d'entreprendre vraiment. Mais du coup, à Paris, je savais qu'on ne pouvait pas entreprendre en étant à Paris. Ça coûtait extrêmement cher. Si je me lançais, du coup, je mettais toutes mes économies que j'avais fait justement grâce à mon métier de consultante, mais ça ne permettait pas de à la fois vivre, lancer son projet et payer son prêt étudiant aussi. Donc, on a quitté Paris et c'est là qu'on est retourné à Reims.
C'est intéressant ce choix parce que j'ai été confronté au même quand je me suis lancé à 23 ans dans l'entrepreneuriat et de dire bah, ma société, est-ce que je la crée à Paris? Alors où il y a plus d'opportunités, mais c'est aussi plus cher au départ. Ou en région, et j'ai fait le choix de la région, et après d'aller justement aussi aller toucher ce marché. Donc, vous avez eu, enfin, tu as eu la même démarche. Ok, tu as dit qu'il y a eu plusieurs déclics qui t'ont mené à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous refaire une temporalité?
Bah en fait, il y a eu plusieurs déclics. Le premier, ça a été lorsque j'ai été consultante justement à Paris. Où en fait, je démarre ma première mission, donc à la base en tant que stagiaire. Mais en fait, c'est une mission qui a duré du coup 1 an et demi et c'est ce qui m'a fait rester. C'était une mission assez entrepreneuriale. On lançait un programme de cashback dans une entreprise d'assurance. Donc, c'était assez innovant, différenciant. Et en fait, on s'occupait de tout avec la consultante avec qui je travaillais. Le juridique, le marketing, le digital. On développait une application, un site. Et en fait, c'était extrêmement intéressant, hyper enrichissant. Et on était chef de projet aussi du coup, mais... C'est ça qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu et ce que je pensais être du coup le conseil. Mais en fait, c'était pas vraiment, vraiment ça. C'était plutôt une mission atypique en fait dans le monde
D'accord.
du conseil. Et en fait, ça se passait plutôt bien, mais aussi ça se passait bien parce que j'exprimais pas vraiment ce que je pensais. J'avais du mal à asseoir mes positions, voilà, à dire ce que je pensais vraiment.
D'accord.
Et donc, j'étais juste une très bonne exécutante. Je travaillais énormément et en fait. On me donnait des missions et je faisais de mon mieux pour les accomplir. Et après, c'est vrai que quand, du coup, j'ai changé de mission, parce qu'à un moment donné, on doit faire être staffé ailleurs. Ça a été plus compliqué parce que là, du coup, j'ai été livrée à moi-même. Donc, j'étais la seule consultante sur la mission. Il y avait des choses que moi, j'appréciais un peu moins d'un point de vue management et d'un point de vue humain. Et c'est vrai que, du coup, à ce moment où je devais m'exprimer, en fait, ça a été un peu compliqué de dire ce que je pensais. Et jusqu'au jour où, du coup, avec un manager, ça s'est un peu mal passé, en évaluation notamment, et jusqu'à me dire des choses un peu limites. On m'a parlé de plafond de verre que je ne pouvais pas briser.
D'accord.
On m'a parlé de choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que, à la fois, ça m'a... Enfin, j'ai compris parce qu'il y avait des remarques qui étaient assez constructives. Et c'est vrai que c'était en lien avec, du coup, les problèmes que j'avais... depuis toute petite, mais du coup ça m'a quand même touchée, ça a touché mon ego, donc je me suis, enfin il y a eu un premier déclic où je me suis dit ok, il faut que tu prennes ton destin en main parce que du coup
ça a été moteur finalement pour toi.
Ça a été hyper moteur, hyper motivant parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur qui avaient besoin de sortir et en fait je voulais pas être cantonnée à juste une casquette, enfin je voulais faire plein de choses en fait, ça me plaisait de d'apporter ma patte.
Ok, donc premier déclic avec cette mission. Donc tu dis que tu l'as réalisé en parallèle des études.
Oui, c'est ça. Exactement.
Donc là, tu te dis, ok, bon, c'était difficile de m'affirmer. Finalement, là, je jose avec ce manager, de ce que je comprends. Puis finalement, ça ne se passe pas bien. Bon, il faut que je sois peut-être maître de mon destin.
Ouais.
Ça, c'est le premier déclic. Tu en as eu d'autres ?
J'en ai eu un deuxième, justement. Je finissais donc mes études. Et en fait, je réalisais mon mémoire sur de fin d'études. Et en fait, mon sujet portait sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat.
D'accord.
Et donc, en fait, je creuse ce sujet, du coup, vraiment à fond parce que ça me plaît et que je me rends compte que j'apprends plein de choses. Et en fait, je découvre aussi des sujets assez intéressants où, en fait, je me rends compte qu'il y a des choses qui me parlent, qui me parlent un peu plus que, je pense, si d'autres personnes avaient travaillé ce sujet, de par mon histoire personnelle. Et en fait, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant que... j'identifie un peu tous les sujets auxquels les femmes font face dans la société, mais du coup, enfin pas que dans l'entrepreneuriat, mais voilà, de manière générale, je me dis que je dois aussi prendre mes responsabilités. Puis en plus, du coup, j'étais un peu frustrée de l'autre côté, donc je me dis en fait, là, il faut que tu prennes ta vie en main et que tu combattes un peu ces sujets-là.
Ok, sur fond d'engagement. D'ailleurs, j'en profite, je suis content d'avoir une femme entrepreneur face à moi parce que c'est cool. La réalité du marché, c'est que effectivement, il y a aussi plus d'hommes à date, en tout cas, même si les choses évoluent. Donc, je pense que c'est une bonne chose que tu puisses partager ton expérience. Donc ça, c'est ton deuxième constat. Mais jusque-là, il n'y a pas encore d'idée d'entreprise ou de secteur ou autre, ou si ça commence à venir.
Je venais d'avoir l'idée justement en parallèle, parce que j'ai choisi ce sujet justement parce que je commençais à réfléchir parce que j'avais eu cette idée justement de signe. Et donc l'idée, c'était en février 2020. Donc je rendais mon mémoire en juin 2020. Donc c'était vraiment
d'accord. Donc c'est à peu près il y a 4 ans.
Oui, exactement déjà. Ça commence à faire. Ouais. Et oui, l'idée, du coup, elle m'est venue à la suite d'une soirée familiale où toutes les femmes de ma famille se sont mises à se plaindre de leur collant.
D'accord.
J'ai pas mal de tantes, mes sœurs, ma mère, ma grand-mère. Et en fait, se sont toutes mises à se plaindre de leur collant. Donc, c'est trop cher, ça file trop vite. Mmh. Et elles me disaient qu'elles avaient testé toutes les marques. Enfin, vraiment, que, voilà, elles avaient... Puis, elles étaient plus âgées que moi. Donc, et moi, j'en portais aussi en tant que consultante. Mais,
il n'y avait pas de solution, en fait, qui répondait aux besoins.
Et en fait, le lendemain, je rentre en covoiturage à Paris à l'époque, parce qu'on était encore à Paris. Et mon collant était bon à acheter. Et je me suis dit, mais c'est vrai que... on s'est un peu moqué de nous sur ce produit. Et je me suis souvenue en même temps d'un reportage Arte visionné 10 ans auparavant sur l'obsolescence programmée. Et les collants faisaient partie des produits justement qui mettaient en avant.
Parce qu'on pense souvent à l'électroménager,
exactement.
Etc.
Bah, il y avait ces produits-là, mais il y avait aussi les collants. Et en fait, ils disaient justement qu'à l'époque, quand le collant est arrivé, il est né, il était indéchirable, vraiment fait pour durer. Donc ça a fait un carton en fait dès le début, mais ils ne voyaient pas les femmes revenir racheter. Et donc en fait, la qualité du produit a été détériorée au fil des années. Et on en est venu, du coup, à vraiment consommer des collants comme si... Enfin, un collant égale une tenue presque. La moyenne d'utilisation d'un collant est de 3. Donc, c'est quand même assez aberrant.
3 fois, tu veux dire ?
Oui, 3 fois.
D'accord.
Ah, oui, donc, 3 fois, en moyenne, un collant se file.
Ouais.
Alors que c'est très énergivore à la production, puisqu'un seul collant nécessite 750 litres d'eau.
Ah oui, c'est énorme.
Donc, c'est énorme, en fait. Et il n'y a aucun moyen de les recycler, parce qu'à date, ils sont incinérés, on n'en fait rien. C'est de la matière première, vraiment... transformer, jeter, quoi.
Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est la capacité pour les entrepreneurs, les profils entrepreneurs, de faire le lien entre des signaux faibles que tu peux avoir. Tu vois, là, tu dis 10 ans avant, j'avais regardé un reportage, et puis la veille, on en a parlé, puis le jour J, je regarde mes collants, ils sont bons à acheter. Ouais. En fait, tout ça fait que tu connectes les points et que tu
exactement.
Dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser,
ouais.
là.
Ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé.
Okay.
En 24 heures de temps, du coup, il y a eu ce déclic, quoi.
Ok, et là, alors, tu te dis quoi? Tu te dis pas, je vais lancer une boîte, tu te dis, je vais creuser ben là, un peu le marché, enfin, comment ça se passe?
Là, j'ai créé Axel, du coup, et mon associé et mon conjoint dans la vie.
Et on en parlera
dis,
de ça.
Ouais, et je lui dis, les collants, et il m'envoie un point d'interrogation, il me dit, on a tout un problème avec ça. Et en fait, je rentre et je le bassine pendant des heures sur les collants. Mais vraiment, lui me regarde, il comprend pas, quoi.
Qu'est-ce qu'elle a?
Ouais, c'est ça. Et vraiment, je lui en parle pendant des heures. Et en fait, du coup, c'était février, donc on allait être confinés. Nos activités de consultant baissent et on en profite pour creuser le sujet. Donc, on a fait benchmark, études de marché et on a vraiment...
Quand tu dis nos activités de consultant, ouais. c'est que Axel est aussi consultant ?
Oui, Axel était aussi consultant, même dans le même cabinet. En fait, il avait un an académiquement de plus que moi. Donc, on s'est rencontrés en école de commerce.
D'accord.
Il m'a recruté à la junior entreprise.
D'accord.
On a bossé ensemble dans le conseil et moi, je l'ai recruté sur Cine.
Ok, intéressant votre histoire. Ok, donc là, vous avez tous les deux vos activités, vous creusez, ouais. c'est-à-dire pendant le Covid, enfin la crise ouais, du Covid, vous creusez le soir, le midi, etc. Pour essayer de voir s'il y a un marché. Et quel constat vous faites ou qu'est-ce qui fait que vous dites, on tient peut-être quelque chose.
Mais le constat, c'est qu'effectivement, on regarde toutes les études qui ont été menées sur le produit. On analyse, c'était notre métier, donc tout ce qui est benchmark, vraiment creuser l'info. On a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps. Ça nous a pris des mois à vraiment regarder et voir qu'en fait, effectivement, tous les produits proposés sur le marché étaient quasiment les mêmes, à très peu de choses près. En général, les marques se différencient un peu d'un point de vue image, d'un point de vue argument marketing, mais finalement, les produits étaient les mêmes. Et ils sont maintenant aussi produits un peu dans les mêmes usines. Il faut savoir que du coup, avant en France, il y avait beaucoup d'industries qui produisaient du collant et maintenant plus du tout. Enfin, c'est très très peu. Donc c'est plutôt en Italie, Pologne et après
donc,
il y a l'Asie
évidemment.
Ça a été
délocalisé beaucoup.
Mais, ouais,
et là, est-ce qu'avec la tendance de réindustrialisation de la France, ça revient ou pas?
Et ben, c'est le sujet. Sur le collant, c'est pas revenu. Donc nous, en fait, on s'est associé avec le dernier atelier familial indépendant qui produit du collant depuis plus de 70 ans.
Qui est en France?
Qui est en France, exactement, dans le sud de la France. À l'époque, ils étaient 300 et maintenant, il est tout seul.
Oui.
Et donc, c'est aussi, ça fait partie de nos enjeux, nous, avec la croissance de Signe. En fait, on grandit ensemble. Lui recrute, nous aussi. Mais on atteint aussi nos limites. Et c'est pour ça qu'on va en parler, je pense, mais on va lancer notre projet industriel.
Ok, bon, plein de choses à voir. Donc, vous étudiez le marché, vous avez cette force d'avoir déjà de l'expérience et les études qui vous permettent d'avoir cette réflexion stratégique et structure dans vos recherches et dans la création de votre projet. Et vous vous dites, go, on y va. Et là, vous quittez votre job et tout, ou comment ça se passe?
Alors, pas tout à fait quand même. on se dit qu'il y a quelque chose, d'intéressant, il y a quelque chose à faire. Au premier déconfinement, du coup, on va à la rencontre de notre partenaire actuel. On le rencontre, on échange avec lui, on essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé sur le marché
du
collant.
Mais là, vous n'avez rien, vous faites quoi? Vous l'appelez,
rien.
Vous dites
ouais,
on a un projet,
alors,
mais on va voir. Ouais.
On a passé beaucoup de temps à l'appeler.
Pour essayer d'avoir le rendez-vous.
Et en fait, le numéro, c'était le papa de la personne qui tient l'atelier aujourd'hui.
D'accord.
Et à force, c'est un vieux papa, donc parfois il se souvient de nous, parfois pas. Et à un moment donné, il se souvient vraiment de nous. Il me dit « Ok, je vous donne le contact de mon fils,
d'accord.
qui est du coup la personne qui gère l'atelier et avec qui on échange et qu'on rencontre, etc. » Mais ça a pris pas mal de mois, oui.
Ok, donc là, vous arrivez avec un projet sur le papier.
Même pas sur papier, dans nos têtes.
D'accord.
Ouais, vraiment dans nos têtes. On lui présente, on lui dit que nous, on veut produire un collant qui dure vraiment. On veut apporter une vraie innovation produit et on ne regardera pas le coût de revient. Donc, lui, il a vu ça, je pense, comme une opportunité parce qu'en fait, le marché du collant est en déclin depuis plus de 10 ans. Il commence à perdre, en fait, il voit les volumes décroître, lui, sur le collant. Il est pas du tout concurrentiel avec, justement, ses collègues dans les contrées lointaines où le prix de revient du coup est nettement inférieur à ce que lui propose. Et nous, on lui dit, tant que c'est une innovation produit, qu'on propose vraiment quelque chose de différenciant, nous, on s'adaptera après.
Parce que j'allais dire, comment il accueille l'idée, lui, parce qu'il voit arriver deux jeunes, sortis de nulle part pour lui, en tout cas, parce que lui, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il est dans le secteur. Il le voit en déclin et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête?
Ouais, Ouais, je
vous arrivez à le convaincre.
On arrive à le convaincre. Ça a pris un peu de temps, hein, mais on arrive à le convaincre. Et puis après, il a son activité aussi à faire tourner. Donc voilà, R&D se mène en parallèle, mais ça a pris plus d'un an au final à sortir notre premier prototype. Donc il y a eu, je pense, au final, une relation humaine qui a commencé à se construire, qui s'est développée au fil du temps et qui aujourd'hui nous permet d'entrevoir l'avenir avec lui. Parce qu'en fait,
quelque part, vos destins sont un peu liés. Donc lui a vu une opportunité de refaire peut-être son métier à l'ancienne, en tout cas de manière traditionnelle, valorisante à ses yeux.
Exactement.
Ok. Donc vous créez cette relation. Comment ça se passe sur la phase de R&D ? Alors je suis déjà plus loin, mais on va revenir dessus. Mais... comment ça se passe sur la phase de R&D ? C'est vous qui financez ? C'est lui ? Il est prêt à... C'est un coprojet, c'est...
Ouais, c'est assez flou cette période-là. Enfin, c'est plutôt un coprojet. Nous, en fait, on avait déjà travaillé justement pendant le confinement, donc tout ce qui est matières premières, on avait déjà des idées en fait de fils qu'on pouvait tester parce que qui n'existaient pas sur le marché. Et on s'est dit naïvement en fait, parce qu'on fait pas partie du... Enfin, on a fait des études de commerce, mais pas du tout de textile. Donc je pense que c'est notre côté aussi un peu naïf qui a permis d'en arriver là, parce que nous, on s'est dit, en fait, c'est facile, on teste des fils qui sont hyper résistants, qui fonctionnent dans d'autres industries, juste, il faut en faire un collant.
Oui, le fameux, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à ça?
Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, mais lui, c'est curieux, parce que quand on lui a proposé le projet aussi, il nous a dit, mais j'y avais pas pensé, en fait, à essayer d'innover, de détourner une...
Parce que lui, il avait des œillères, il était
ouais,
dans son...
Pour lui... ouais, exactement.
Dans son quotidien.
Et donc, en fait, le fait qu'on lui ait proposé quelque chose de différent, ça l'a intéressé, et c'est comme ça qu'on a avancé ensemble. Du coup, nous, on lui proposait plutôt les matières premières, et lui essayait justement de les recevoir, de faire un collant, etc. Mais ça a pris beaucoup de temps, parce que le fil est beaucoup plus résistant que ces fils traditionnels, donc les machines...
Il faut adapter
tout le processus de fabrication.
Quand intervient du coup la création de l'entreprise même ?
Alors en fait, donc on est encore consultant quand on fait la phase de prototype, de R&D. Et en fait, on s'est dit, nous avec Axel, si on ne propose pas un produit innovant, on ne va pas lancer juste une marque de collants. Moi, même si je suis une fille, mais on pourrait dire qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent dans la mode. Ce n'était pas du tout ma vocation. C'est pas un secteur qui me plaît plus. Ce n'était
pas un rêve pour toi, non, comme certaines qui se disent un jour, si j'entreprends, c'est dans la mode.
Okay. Non, pas du tout. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit, nous, c'est vraiment l'innovation produit qui va primer, le fait de proposer quelque chose de différent, en plus fabriqué en France avec des vraies valeurs. On a aussi des services qu'on propose autour de la marque, mais du coup, tant qu'on n'avait pas le premier prototype dans les mains qui soit conforme à ce qu'on voulait, on n'a pas quitté, on a même avancé sur aucun autre sujet en fait. S'est dit, on verra plus tard tout le marketing, la communication, etc. et même la création de la boîte.
Ok, donc tu avais dit un an d'R&D à peu près ?
Oui, un an de R&D.
Donc au bout d'un an, vous avez un collant, un premier proto.
Oui, moi je quitte en juin.
Qui est validé ?
Oui, qui est validé. On se dit, ok, on peut se lancer. On n'a pas d'autres produits, mais tant pis. Au moins, on voit
vous
si la promesse.
Monoproduit à la sortie.
Monoproduit, monocouleur en plus. Donc sur le collant.
Au moins, vous n'êtes pas embêté. Et les voitures au départ, c'était des voitures noires, il n'y avait pas le choix de la couleur.
C'est vrai. Et du coup, on s'est dit, go, on y va. On voit au moins si la promesse parle, le projet parle. Et moi, j'ai quitté en juin 2021, du coup, mon job de consultante.
D'accord.
Et on s'est lancé en novembre.
Un an et demi après l'aider.
Ouais, okay. Exactement. Et on s'est lancé en novembre 2021 sur Ulule, via une campagne de financement participatif.
Ok. On va aussi en parler. Avant de passer justement à la deuxième partie, dernière question sur les débuts. Pourquoi ce nom de marque, Signe ?
Signe parce qu'on voulait un mot court. Ouais. Français, qui sonne dans l'imaginaire des gens, qui ne soit pas un mot inventé, et parce que le cygne, c'est l'oiseau le plus fidèle. Il est reconnu pour avoir qu'un seul partenaire toute sa vie.
Okay.
Et on aimait bien, du coup, ce que ça retranscrivait par rapport à nos produits.
Au collant.
L'idée d'avoir, on n'a pas un collant toute une vie, mais c'était l'idée.
D'accord, ok. J'aime bien comprendre l'évocation, en tout cas la genèse, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que je me dis, mais comment je fais le lien entre cygne et les collants, et l'explication, elle est toute trouvée. Super, je propose qu'on passe à la deuxième partie. Comment vous avez fait pour vous attaquer à ce marché du collant face à des mastodontes, et notamment aussi, quel a été l'impact de la participation de cygne à Plug & Start il y a 2 ans. Donc, vous arrivez, vous lancez la boîte, ça s'appelle Sing, vous avez un monoproduit, un collant noir, c'est ça ?
Exactement.
Comment vous le mettez sur le marché ? Vous le vendez en ligne? Vous allez dans les magasins? Comment ça se passe?
Ouais, en fait, on s'est dit qu'on allait le vendre en ligne pour commencer. Enfin, il y avait les plateformes justement type Ulule qui étaient intéressantes pour le côté communautaire. Et nous, ce qu'on avait imaginé, c'était justement une marque assez communautaire qui co-construit les produits avec ses clients, ses ambassadeurs. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant pour lancer notre projet. Et puis, ça permettait aussi d'amortir la première production justement de Collant et donc de lancer sa boîte, d'atteindre de nouveaux clients, d'acquérir de nouveaux clients, etc. Enfin, ses premiers clients finalement. Et donc, on va te dire qu'en fin août, on ouvre les réseaux sociaux parce qu'on se dit qu'en fait, c'est l'été, il fait hyper chaud, on va pas parler de Collant quand il fait 30 degrés.
C'est pas le bon moment, ouais.
Donc, on a attendu, puis on avait préparé un peu le logo, la charte graphique, etc. Donc, ça, on a fait ce travail en août. Et après, en fait, on a échangé avec d'autres entrepreneurs. Nous, en fait, comme on n'a pas d'entrepreneurs autour de nous, on s'était dit que c'était hyper enrichissant d'essayer de justement échanger avec d'autres entrepreneurs qui avaient des longueurs d'avance, qui pouvaient nous conseiller justement sur le lancement du projet. Et on a échangé notamment avec Ben Gerville, le fondateur de Spring, la lessive livrée en boîte aux lettres.
Très sympa comme marque. Sur le podcast.
Ah ben voilà.
Avec son associé.
Et du coup, une demi-heure d'échange avec lui, en fait, ça te fait gagner 6 mois en termes d'expérience. Et du coup, on s'est dit, OK, on va organiser un concours, sur Internet, donc sur les réseaux sociaux, sur une plateforme qui va permettre de faire gagner des points aux personnes qui rejoignent le concours. Donc, par exemple, tu t'abonnais à notre page Instagram, tu avais des points, tu t'abonnais...
Quelque chose un peu gamifié,
ouais,
viral.
Exactement. Tu rentrais ton adresse email, donc tu avais pas mal de points. Et si tu intégrais d'autres gens, tu gagnais encore plus de points. Donc, en fait, c'est devenu viral comme ça. En un mois et demi, on avait à peu près 8000 adresses email. Et
d'accord, en fait, c'est beau.
C'était cool. On n'en revenait pas, nous. Enfin, je démarre de zéro, donc en fait, la moindre adresse email est importante. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé, on a commencé le CRM, en fait. J'envoyais des newsletters pour expliquer qui on était, se présenter. Parce que s'il faut savoir que sur le marché du collant, il y a eu beaucoup de mots qui ont été faits, avec notamment des dropshippers qui ont lancé des produits pas du tout qualitatifs, qui ont fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de clients qui se sont fait arnaquer. Et en fait, il y avait cette notion de gagner la confiance des gens.
Ça avait créé, tu trouves, une défiance de la part de la clientèle sur ce produit.
Nous, tout de suite, il fallait qu'on fasse des photos de nous, qu'on explique qu'on était des vraies personnes, qu'on habitait en France.
Les rassurer.
Les rassurer, en fait, c'était hyper, hyper important.
D'accord.
Et aussi, on a passé beaucoup de temps à les appeler. Du coup, ça nous permettait de faire une enquête client. Et en fait, de les avoir au téléphone, etc., ça les rassurait. Ils se disaient, OK, en fait, il y a des vraies personnes.
La démarche qu'a eu Spring, au final, parce qu'ils l'ont fait de mémoire, Respire. Aussi a fait.
Oui.
Donc, le fait d'appeler au départ les clients et montrer que vous existez.
Et hyper important.
Les feedbacks.
Parce qu'en fait, il y avait cette notion effectivement de résistance que nous, on avait identifiée au lancement de projet, mais il y avait aussi les notions de il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il soit esthétique, etc., qui étaient presque à la même hauteur qu'au niveau de résistance. Et c'est ça aussi qui nous a drivé dans le développement produit.
Et ça, vous avez eu des focus group ou en tout cas des personnes au départ qui. Tu parlais d'ambassadeurs tout à l'heure, mais. Qui étaient, je sais pas, hyper engagés sur la marque et qui ont dit, nous, on est prêts à faire les tests au fur et à mesure avec vous. Ou c'était juste toi qui testais avec tes tantes, qui était le meilleur
non,
finalement.
Non, on avait effectivement organisé un groupe qui a grossi au fur et à mesure et on faisait tester les prototypes, on récoltait les feedbacks à l'époque. Quand j'y pense, on faisait ça vraiment à la mano. Il faut bien commencer. Mais oui, on avait commencé comme ça, exactement. Ouais.
OK, donc vous lancez comme ça. Alors, vous arrivez sur le marché. Mm. On a parlé tout à l'heure que vous êtes en couple avec Axel.
Oui.
Comment vous avez fait pour vous répartir les rôles, le capital, le quotidien, etc.
C'est une très bonne question.
J'imagine que tu avais un peu plus d'expérience que lui sur les collants, mais
tout. Sinon...
non, parce que vous avez les mêmes. Oui. En fait, vous avez les mêmes parcours.
Exactement.
Donc, si tu veux, ma question, c'est d'arriver à comprendre comment, quand tu as deux parcours identiques, que vous soyez en couple ou pas, s'associent, comment on fait ? Parce qu'il y a potentiellement parfois des trous dans la raquette ou des doublons sur certaines compétences.
On a mis beaucoup, beaucoup de temps à se trouver. Et en fait, à ce moment-là, justement, on pensait ça. On a dit, mais on a des parcours similaires. On a au final à peu près les mêmes expériences, à peu de choses près. Et en fait, c'est vrai qu'on avait écouté beaucoup de podcasts et il faut que les associés soient complémentaires. Attention, entreprendre en couple.
C'est le discours qu'il y a souvent. Ouais.
Ouais, c'est risqué, etc. Donc, il y avait vraiment les feux qui étaient vraiment pas ouverts pour
tout pour vous décourager.
Ouais, tout pour nous décourager. Mais au final, on s'est fait confiance parce qu'on avait appris, on avait travaillé ensemble avant de se mettre en couple aussi dans la junior entreprise de l'école, même si c'était une expérience relative à notre parcours à ce moment-là. Mais On a pris du temps à travailler, à apprendre à travailler ensemble. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout pareil.
D'accord.
On ne travaille pas du tout de la même façon. D'un point de vue personnalité, on est très différents. Et donc, il fallait se trouver. Et se trouver alors que tu lances ta boîte dans ton appart et qu'il faut trouver tes premiers clients. Donc, et en plus, moi, j'avais quitté mon job. Donc vraiment, il fallait que ça fonctionne. Quoi.
Oui, il n'y avait plus de revenus. Un contexte où il fallait que vous fassiez des chiffres. Quoi.
C'est ça. Et je n'avais pas d'autre issue parce qu'en fait, je m'étais rendu compte aussi que le salariat ne me plaisait pas tant que ça. Donc, je ne voyais pas d'autre...
Oui, il n'y avait pas de plan B de dire au pire, j'en prendrai un poste ou autre. Ce n'était pas une option pour toi.
Ouais. Il n'y avait pas aussi cette notion de j'ai 2 ans pour me lancer et pour faire en sorte que je puisse me payer.
Oui,
en
avec potentiellement du chômage ou des aides.
En fait, il fallait que ça fonctionne au lancement. Okay. Et puis le lancement permettait aussi de faire en sorte qu'il y avait de l'attraction pour la marque, etc. Donc il y avait beaucoup d'enjeux au final pour le lancement. Mais du coup, en tout cas, ouais, on a pris beaucoup de temps à apprendre à travailler ensemble. Ça a été compliqué hein, parce que quand on entreprend en couple et qu'en plus on met tous les œufs dans le même panier et qu'en plus on...
Il y a eu des engueulades, des moments tendus.
Ouais, il y a eu des moments très très tendus. Oui, des moments très très tendus. Même à un moment, on s'est demandé si on allait y arriver. Hein. Ouais. Et puis, en fait, tout est mélangé. Il n'y a pas, ok, ça c'est le projet, non, il n'y a pas de frontières. On dit oui quand on rentre à la maison, on ne parle plus de boulot, c'est complètement faux, c'est impossible. C'est juste après trouver les équilibres de chacun et essayer de respecter un peu le rythme.
J'imagine même pas, parce que déjà un entrepreneur dans un couple, c'est déjà éreintant pour l'autre. Alors s'il y en a deux et qu'en plus dans la même boîte, ça doit pas être...
Ouais. On a échangé justement avec des entrepreneurs qui étaient en couple et en fait, eux, leur principale difficulté, j'ai l'impression que c'est justement leur conjoint ne les comprend pas dans leur rythme de vie, la pression qu'ils ont. Mmh. Pour le coup, ça, c'est une vraie force quand on entreprend en couple, c'est qu'en fait, on partage la même vision, on se fait extrêmement confiance. Et donc, en fait, si on travaille, on sait pourquoi on le fait. Donc, on ne va pas reprocher à l'autre de trop travailler. C'est pour le bien commun. Donc,
Tu soulèves un point super intéressant parce que c'est vrai que... pour quelqu'un qui est en couple avec un entrepreneur, il faut accepter aussi ce mode de vie, le fait que la personne finalement déconnecte quasiment jamais, même si elle est là physiquement, parfois mentalement, elle est ailleurs. C'est une réalité et je pense que c'est une vraie question à se poser quand on veut entreprendre. C'est ce que je mets d'ailleurs dans le livre « Comment t'as fait ?» C'est se poser des questions. Quel est mon contexte familial à ce moment-là? Est-ce que mon partenaire de vie accepte ou pas ce mode de vie? Enfin voilà, quelles concessions je suis prêt à faire ou pas? Tout ça, c'est des questions à se poser en amont, parce qu'une fois qu'on est dedans, ça peut partir dans la mauvaise direction. Des moments compliqués, des moments aussi sympas?
Ouais, des moments sympas quand ça se passe bien.
Ça va bien se passer, non?
Ouais, ça se passe bien. Des moments très sympas pendant la campagne Ulule, quand on lance le projet, qu'on se rend compte qu'en fait, organiquement, on avait très peu d'investissement. Il y a un accueil super positif, des clients qui nous encouragent, des gens sur les réseaux sociaux qui nous encouragent. Ça a fait énormément de bien. Et on s'est dit, ok, on a réussi le job de 4 semaines de campagne qui était de réunir du coup plus de 500 premiers clients.
Et ce qui n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, que ce soit Ulule, Kickstarter, toutes les solutions en fait, qui proposent des financements par le public sont de plus en plus exigeants sur les dossiers et pour les accepter. Donc passer cette étape-là, c'était déjà une première aussi validation. Et là, tu dis, vous aviez un objectif de 500 collants vendus ?
On avait mis un objectif de 100. Et là, on avait 500 clients, mais on en a vendu 900, en fait.
D'accord, donc vous avez explosé en plus l'objectif. Oui. Donc pour vous, c'est une super preuve qu'il y avait un marché, en tout cas, il y avait une attente. Mmh. Ok, comment vous faites là, du coup, pour... produire déjà, et puis livrer ce que vous avez vendu en plus.
La production, on l'avait un petit peu anticipé parce qu'on l'avait lancé en novembre et on avait promis une livraison avant Noël.
D'accord.
Donc on s'était dit, puis même avec toute la R&D, le temps qu'on avait passé avec notre producteur, il fallait aussi récompenser un peu le travail qui avait été fait. Donc on avait anticipé la prod, puis on s'était dit, si on ne vend pas tout pour Ulule, on vendra après sur notre site internet, on trouvera des moyens. Il s'est avéré que du coup on a été en rupture de stock après la campagne Ulule.
Oui.
On a livré nous-mêmes tous les colis, donc première expérience dans la logistique.
Donc c'est toi qui vas à la poste ou qui fait qui prend la voiture et qui...
Ouais, j'avais Axel à l'époque était encore consultant, donc en fait j'avais tout préparé pour que quand il arrive, on se mette tous les deux et on prépare tous les colis et on avait livré aussi en main propre les clients autour de chez nous.
Les clients, ouais.
Voilà, expérience très sympa, mais très compliquée parce qu'en fait, tu passes des heures sur la route à rencontrer tes clients, donc c'est sympa, mais je ne referai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, on livre tous nos clients et on vit du coup notre première rupture de stock. On lance notre site internet juste après la fin de la campagne Ulule, comme ça les retardataires de la campagne Ulule aussi pouvaient continuer exactement. Donc on a mis en précommande. Et après, bah, ça a été compliqué parce qu'on est en monoproduit, monocouleur. Ok, on lance notre site internet, on a eu 500 premiers clients, mais il faut grossir, il faut grandir, il faut développer d'autres produits, il faut commencer à se structurer. Et on n'est que tous les deux encore dans notre appart, essayer de lancer la boîte.
Et du coup, se pose la question de comment tu fais à ce moment-là pour te faire connaître, pour que la marque soit connue. Et puis surtout, vu que vous répondez à cette notion d'usage, au lieu de 3 usages, on passe à 30, parce que c'est la promesse que vous faites sur votre site, par collant. Comment vous faites pour faire du return, quoi, c'est-à-dire que la personne revienne, rachète ou autre. Alors voilà, je ne sais pas quel est votre positionnement là-dessus, c'est une question que je voulais te poser.
Oui, du coup, au début, ça a pris pas mal de temps avant que justement ça a pris pas mal de temps avant qu'on trouve les premières étapes en fait pour lancer vraiment sa boîte, donc d'un point de vue financement, d'un point de vue structuration, etc. Donc en fait on a participé à un grand pitch organisé dans notre région où il y avait tout l'écosystème entrepreneurial, donc le réseau entreprendre, l'incubateur, l'accélérateur, les banques, etc. Et c'est là où on a été élu coup de cœur du jury.
D'accord.
On avait du coup déjà fait du chiffre d'affaires, on avait déjà des premiers KPI, ça les a intéressés et en fait c'est là où on a rencontré plein de monde et on s'est dit ah mais en fait il n'y a pas que à Paris où on peut déjà lancer sa boîte, et à Reims aussi on peut, il y a des gens pour nous aider et des gens qui ont envie de nous aider à le faire, donc ça c'est super cool, on s'est déjà senti un peu moins seul. Et après aussi on a eu des médias qui se sont intéressés à nous, d'abord effectivement locaux, enfin régionaux, avec le journal du coin qui veut nous mettre en avant. Sauf qu'en fait, ça a commencé comme ça et au fur et à mesure, les journalistes voient qu'il y a d'autres journalistes qui s'intéressent à toi et que tu payes pas aussi pour des médias. Et ça aussi, en fait, ça a de la valeur dans le monde des médias et ça a été un accélérateur aussi pour nous, pour nous faire connaître.
Ouais, donc pour vous, finalement, enfin, quand on crée une marque, c'est vrai que les retombées presse, en tout cas, ça permet de valider, de crédibiliser.
Exactement, de crédibiliser.
De rendre légitime, en fait, une entreprise. Parce que quand le journaliste fait un article, évidemment.
Exactement.
Outre la visibilité, ça vient aussi valider un projet. Ok. Ensuite, vous avez participé à Plug & Start.
Oui.
Mais du coup, ce n'est pas au tout début de l'aventure, parce que vous aviez déjà du chiffre et vous avez déjà avancé. Bah qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça?
C'est au moment, justement, où on a fait le grand pitch. En fait, à ce moment-là, on faisait tout pour échanger avec des entrepreneurs.
D'accord.
Axel passait son temps sur LinkedIn, etc. Et en fait, à ce moment-là, on échangeait avec Hugo Benz, donc un entrepreneur...
D'accord. Qui est passé aussi sur ce podcast, voilà, décidément.
Qui, du coup, a entrepris dans le textile. Donc, c'était intéressant d'échanger avec lui. Et en fait, il nous a mis en relation avec Jonathan Lalinec, qui est le fondateur de Split, et en fait, qui était entrepreneur dans notre région.
D'accord.
Et donc, on a échangé avec lui pour essayer de, justement de voir comment lui s'était développé au tout début. Et en fait, c'est lui qui nous a parlé de Plug & Start, qui nous a dit, mais la Technopole de l'Aube organise un concours chaque année sur les startups innovantes et vous devriez postuler parce que je suis sûre que vous rentrez dans les critères. Et sauf que la deadline était quelques jours après, donc il fallait absolument qu'on se dépêche. Et c'est comme ça qu'on a découvert du coup Plug & Start. On a candidaté, on a été retenu. Et on a passé du coup 3 jours, donc fin juin, à 3. Donc avec Plug & Start, on a été mentoré par 3 personnes. On a assisté à pas mal d'ateliers, etc. Ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on a appris là-bas que le collant à la base est né à 3, dans l'Aube.
Ah, vous ne saviez pas, vous avez...
Non.
Okay.
Et d'accord. En fait, on s'est dit, mais à 1 heure de chez nous,
ouais, il y a en fait...
Il y a tout un passé historique sur notre secteur et c'était hyper intéressant parce que du coup, on a rencontré des industriels, on a rencontré des personnes qui avaient des membres de leur famille qui ont travaillé pour des très, très grandes marques de collants qui, à l'époque, étaient très, très grosses, qui, au fur et à mesure, et voilà, avec la délocalisation, etc., ont fini par fermer. Mais c'était hyper, hyper intéressant et c'est aussi pour ça, on pense que c'est aussi pour ça que du coup, on a gagné l'un des 3 prix de Plug & Start. Parce qu'en fait, ça parlait au jury, notre projet. Donc non, c'était hyper intéressant.
Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 jours-là? Parce que vous aviez déjà du chiffre, il y avait déjà quelques preuves, en fait, quelques KPI, comme tu disais. Est-ce que ça vous a fait évoluer le projet? Pas du tout. Ça vous a fait avoir une nouvelle perspective ça a confirmé que vous étiez dans la bonne direction et vous avez accéléré. Quels sont les bénéfices pour vous de cette participation ?
En fait, ça a permis de voir, je pense, notre projet de façon plus large. On n'était pas juste un... Enfin, il n'y avait pas que le projet Ulule, même il n'y avait pas qu'un e-commerce, en fait. Il n'y a pas... Si on veut construire une marque, la base de base, c'est le produit. Donc, en fait, quand on rencontre des industriels et qu'en plus, nous, on fait face aux enjeux de la production 100% made in France, en fait, on commence à comprendre justement les enjeux, ce qui fait que justement des industries ont fermé, etc. Enfin, voilà, des usines ont fermé. Et donc, on se dit, OK, il faut qu'on s'entoure si on veut que justement perdurer, faire les choses bien et parce qu'on n'a pas envie justement de... Bah de faire les mêmes erreurs, donc hyper intéressant. Ouais.
Ouais, donc c'était des rencontres, et ça a été finalement d'autres perspectives aussi sur, sur votre activité. Une histoire à raconter aussi, parce que tu disais si c'était le berceau de... du collant, ça nous a permis de développer cette partie-là, et ça me permet de faire un pont vers le branding, parce que j'ai cité le Signe Lab et les wordings, en fait, le tone of voice que vous utilisez pour présenter la marque. Tout ça, pour toi, ça contribue et ça joue de l'image de marque ou pas du tout ? Ça vous différencie pas ?
Ça joue clairement. On a toujours voulu donc être une marque assez communautaire. Donc nous, depuis le début, c'est vrai qu'on se met un peu en avant avec Axel. On montre en fait surtout les succès et les échecs, les galères en fait d'entreprendre. Donc je pense que les personnes qui nous suivent depuis le début savent comment on a commencé, l'appart, le premier bureau, la logistique, les colis. On essaye vraiment de montrer un maximum l'envers du décor parce qu'à la fois, ça permet d'avoir un attachement à la marque et en même temps, ça peut aussi permettre d'encourager des gens à entreprendre, de faire les choses et de se dire en fait, nous aussi, on est comme vous. On apprend et on apprend avec vous, on apprend avec vos retours. Donc effectivement, par exemple, le Signe Lab, ça faisait partie de... On voulait le lancer depuis le début. C'est donc une communauté assez restreinte, justement, de personnes, donc soit des clientes ou pas, en fait, de personnes qui veulent participer justement à la co-construction de la marque, donc le développement de packaging, on prend leur retour, les développements de nouveaux produits, on les fait tester. Là, par exemple, on veut développer les très grandes tailles. Bah, du coup, on est en train de lancer des appels, justement, à des personnes qui voudraient tester, nous aider à développer le produit. Donc oui, une marque assez communautaire, un esprit comme ça. Après, c'est vrai que pour toute l'image de marque, il faut aussi montrer les bénéfices du produit. Donc on essaye de montrer la résistance du collant, on s'amuse un peu avec des crash tests, etc. Et après, tous les services, la garantie 30 jours, la consigne en fin de vie, le Made in France, c'est des valeurs qu'on porte. C'est des sujets, nous, qu'on aimerait que ce soit standardisé à presque toutes les marques de textiles, en fait, parce que c'est de notre responsabilité, que ce soit de la production et de la fin de vie du produit. Donc, si en fait, on se sentait tous responsables et si on payait aussi la production, la valeur vraiment du produit, on ferait beaucoup plus attention à sa consommation, je pense.
Alors, tu me fais une super transition vers la suite. C'est quel chiffre tu peux nous partager à date, que ce soit de chiffre d'affaires, de collants vendus ou autre, et comment vous résolvez l'équation de finalement, je vais en vendre moins, plus cher parce que c'est français et plus quali. Sur le territoire, comment vous faites pour ça?
Bah, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Nous, on a eu la chance, du coup, de trouver notre marché assez rapidement. Donc, on est très souvent en rupture de stock quand même. On est peut-être 70% du temps en rupture de... Non, pardon, 50% en rupture de stock.
D'accord.
Donc, en fait, dès qu'on sort un produit, les gens achètent et une partie de nos clients rachètent. Donc, il y a un enjeu aussi de diversité de produits. Parce que sur le collant, on est habitué à avoir plein de couleurs, plein de motifs, plein de choses différentes. Donc, les clients sont très preneurs de ça. Donc, c'est vrai que ça leur permet, c'est une opportunité pour eux de racheter et puis pour nous de les retrouver, de les fidéliser, etc. Après, c'est vrai que voilà, ça fait partie de nos enjeux. Mais comme on l'a intégré dès le début, en fait, tant mieux. On s'attend à ne pas les revoir tous les 4 matins. Et même si on les revoit très rapidement, des fois, on se dit comment ça se fait. Et des fois, on échange avec nos clients qui recommandent très souvent. Mais en fait, ils offrent, etc. Donc, c'est intéressant. Mais... c'est dans notre intérêt de ralentir une industrie qui pollue quand même, faut le dire. Donc voilà, et puis comme on va lancer aussi notre projet industriel, alors oui, pardon, en termes de collants vendus, on est...
Oui, je revenais sur la question de chiffres, je me suis dit, tiens, je ne vais pas répondre.
Non, on est, là, on a vendu 50 000 collants cette année.
D'accord.
On avait donc commencé à 900 sur Ulule, là, on est à 50 000.
Donc 2 ans après.
Oui, exactement, okay. On est sur notre deuxième année pleine. On a un peu plus de 26 000 clients. On fait principalement de l'e-commerce, donc on vend principalement en ligne, mais on diversifie aussi les canaux de distribution. On a une quarantaine de revendeurs en France pour l'instant, et on fait aussi un peu de B2B, où on équipe des maisons de luxe dont les employés doivent porter des collants du 1er janvier au 31 décembre.
D'accord.
Et en fait, c'est des marchés qu'on a découverts en lançant Signe, mais auxquels on ne s'attendait pas. Mais en fait, il y a plein de choses.
Oui, c'est vrai qu'on pense B2C et vente à l'unité.
Exactement,
ou à quelques
quantités, au particulier, mais il y a plein de choses à faire. Et donc, on est souvent en rupture de stock, on se dit ok, on ne veut pas délocaliser la production parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, aux valeurs qu'on porte. Go lancer notre projet industriel. Être notre propre producteur, donc c'est notre vie qu'on va mener.
Et on va en parler dans la troisième partie. Avant ça, je voudrais revenir sur du coup deux trois sujets que tu as pu évoquer. Donc là, tu nous as donné les chiffres et nombre de ventes et de collants que vous avez pu livrer jusque là. Tu as parlé de rupture de stock et en moi, quand on parle de rupture de stock, il y a deux choses qui me viennent. Ah bah mince, en fait, ils ne peuvent pas répondre à une demande. Et d'un autre côté, est-ce que ce ne serait pas une stratégie volontaire de votre part pour aussi attirer et faire en sorte que les gens, qu'il y ait un pouvoir d'attraction, quoi.
Franchement, j'aurais aimé.
T'aurais aimé.
J'aurais aimé que ce soit calculé, prévu, qu'on anticipe les coms, qu'on fasse des drops, etc. Mais en fait, pas du tout. Ouais, c'est vraiment, on n'arrive pas à répondre à la demande. Alors oui, effectivement, ça augmente sûrement la désirabilité. On voit que dès qu'on lance un produit, les gens se dépêchent d'acheter. Il y en a même qui nous disent, vous savez, on est en rupture. Ils nous disent, non, mais c'est pas grave, je commande et je suis sûre de l'avoir un jour. Donc, on voit bien que ça augmente
la désirabilité. Mais c'est fort. C'est hyper fort.
C'est fort, mais c'est vrai que c'est très frustrant en tant que marque.
Il y a Asphalt qui fait ça dans le textile, avec les jeans. Enfin, elle commence avec les jeans, etc.
Oui, tout à fait.
C'est un modèle qui vous a inspiré.
C'est un modèle qui nous a inspiré. On aime beaucoup, en fait, toutes les entreprises qui essayent d'avoir une démarche assez vertueuse, que ce soit dans la conception même de leurs produits ou de l'expérience client, etc. Nous, ça nous inspire. On pense qu'il faut s'inspirer des gens qui ont des longueurs d'avance, et après essayer d'adapter à fonction de notre marché, de notre produit. Mais oui, effectivement, la précommande, c'est un processus assez vertueux. Après, il faut savoir le maîtriser et il faut avoir... parce qu'il y a quand même
Vous avez une forte saisonnalité ?
On a une très forte saisonnalité. Globalement, le marché du collant, c'est vraiment... ça commence en septembre, mais c'est très fort à partir d'octobre. Et c'est très fort jusqu'à mars. Ça se finit un peu en avril. Mais grosso modo, il y a bien, on va dire, 6 mois de forte activité. Ça aussi, c'est pas facile à gérer parce qu'en fait, on se prend des vagues ultra violentes et on n'a pas du tout anticipé. Et on est toujours sous-staffé. On est 6 maintenant.
D'accord.
Donc on est une équipe assez jeune pour l'instant et c'est vrai qu'on est sous-staffé par rapport à l'activité. Donc c'est assez vertueux, c'est qu'on apprend extrêmement vite et du coup on essaye de. On voit tout de suite les limites de nos process actuels et qu'on progresse assez vite. Mais c'est vrai que du coup on voit aussi les frustrations, les projets pas lancés, etc. Donc, on essaie de.
Vos clients, c'est essentiellement des femmes ?
C'est essentiellement des femmes. On a aussi une part d'hommes. On a essayé, en fait, en lançant Signe, d'avoir une communication non genrée, d'essayer de parler à un maximum de monde. Et en fait, dès le début du LUL, il y a des hommes qui nous ont écrit en nous disant merci de parler aussi à nous, parce qu'il y a des hommes qui portent des collants. Et pour tout type de raisons, mais il y a aussi des hommes qui en offrent, bien évidemment, mais il y a une part aussi d'hommes qui en portent. Et c'est intéressant aussi, il y a des hommes qui sont venus nous voir au Salon Made in France, qui en portaient effectivement, c'est pas... c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça me fait un peu penser au secteur du maquillage, où en fait, pendant très longtemps, on répondait pas à tous les profils, toutes les couleurs de peau, etc. Et en fait, c'est un peu le même cas sur les collants.
Oui, exclusivement la femme,
européenne, exactement.
Ok. Écoute, super. Alors, tu nous as... appâté avec cette notion de nouveau projet industriel. Ouais. On va passer du coup à la dernière partie. Quelle est l'ambition pour Signe dans les années à venir et comment tu comptes y arriver ? Donc tu l'as dit, là, 50 000 collants de 3 ans après le lancement, un booster avec le concours Plug and Start qui vous a permis de faire des rencontres, de vous rendre compte de pas mal de choses et de booster. C'est quoi l'objectif pour vous à 3 ans ? C'est-à-dire, ce serait une réussite si quoi pour toi ?
On aimerait devenir le leader européen du collant durable.
Ok.
On aimerait...
Il faut en vendre combien pour ça, alors ?
Il faut en vendre beaucoup. Alors, le sujet, nous, c'est qu'on va être capé par notre capacité de prod. Hein.
Oui.
En fait, c'est aussi pour ça qu'en fait, il y a une nécessité de lancer notre projet industriel. Donc ouais, c'est en vendre beaucoup parce qu'il y a 130 millions de collants qui sont vendus en France chaque année.
D'accord.
Donc en Europe, c'est beaucoup. Ouais, le chemin est encore long. Hein. On est sur un marché assez gros, donc il y a beaucoup de choses à faire. On doit aller vite avec peu de moyens, donc c'est aussi nous des stratégies sur lesquelles on réfléchit avec Axel, parce que c'est vrai que on aime bien construire une boîte, comme on dit, en bon père de famille. Mais moi, j'aime bien dire en bonne mère de famille. Mais, mais ouais, on regarde l'argent qui sort, l'argent qui rentre. C'est bien, c'est très important d'avoir une boîte rentable et il faut qu'on voit comment on peut aller vite, mais en même temps, ne pas se cramer non plus. Donc, devenir leader européen du collant durable, d'internaliser une partie de la production, donc de participer à la réindustrialisation du textile en France. Mmh. Ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur.
Vous avez des soutiens financiers ou politiques ou autres, justement, parce que c'est une tendance.
C'est une tendance, effectivement. On a des soutiens de la région, etc. Donc vraiment, on est très bien encouragés sur le projet. C'est plutôt nous, avec Axel, qui... avons un peu ralenti, temporisé jusqu'à présent, parce que c'est nous qui allons nous engager sur plusieurs années et acheter des machines, recruter une équipe. C'est un autre métier.
Vous avez encore tout le capital de l'entreprise ?
Oui, on a encore tout le capital. On a 51-49. Pareil, okay. Une répartition.
Qui a 51 ?
C'est moi. c'est moi, mais on n'a pas fait 50-50 parce que justement, dans les podcasts, ils disaient qu'il ne faut pas faire 50-50. Mais en fait, on aurait pu faire 50-50. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Ouais. Ok, et donc pour atteindre cette ambition, projet industriel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez créer votre propre usine ou ligne de prod ?
Oui, exactement. Ouais. Là, on est justement en train de recruter quelqu'un pour dimensionner le projet industriel, parce que c'est là où on atteint aussi nos limites en termes de compétences. Mmh. Ouais, on n'a jamais
fait. C'est quelqu'un d'expérimenté qui l'a déjà fait ?
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens experts. Alors pareil, il faut trouver la bonne personne aussi pour t'accompagner sur ce sujet, parce que on ne va pas être accompagné par beaucoup de personnes. Donc, il faut trouver la bonne personne et mettre justement des mots sur un projet qui ne soit pas surévalué par rapport à notre croissance commerciale, mais pas non plus sous-évalué parce que...
Oui, si vous allez
si on grossit encore aussi vite que là, il va falloir qu'on suive aussi d'un point de vue production.
Et c'est quoi votre vision du coup ? Parce que là, on parle beaucoup de la France, le nom est français, Signe, projet industriel en France, mais vous visez l'Europe. Demain, Signe, ça parle peut-être pas un allemand, un italien ou autre. Comment vous voyez le développement après aussi, au-delà de la frontière ?
Oui. Déjà, nous, on vend beaucoup en e-commerce, mais on a pour vocation, on a pour objectif d'être une marque omnicanale, parce que en fait, 80% des collants sont achetés en physique. Donc,
d'accord.
Même si on grossit très fortement en ligne, ça représente pas aussi la part la plus importante de notre marché. Donc ça va être l'un de nos prochains objectifs, de développer vraiment les canaux de distribution. Que ce soit le wholesale,
donc les distributions physiques,
ouais, exactement.
Donc se faire référencer dans les magasins.
C'est ça.
Vous vous en visez en particulier ?
Après, on est sur un positionnement assez premium de par notre prix et notre proposition de valeur. Donc, on a déjà refusé des propositions de grande distribution, etc., où en fait, on n'aurait pas notre place. Et puis, ça viendrait à la fois dégrader on aurait une stratégie prix vers le bas et en plus, ça dégraderait notre image de marque. Donc, les grands magasins qu'on connaît. Ce serait intéressant.
C'est intéressant de voir ton approche et votre approche, parce que tu mets beaucoup Axel aussi dans l'histoire, et c'est normal, vous êtes deux associés. Mais ce parcours d'école de commerce et de consultant que vous avez eu sur la dimension stratégie, organisation d'entreprise, parce que vous avez, j'ai l'impression que vous avez vraiment une réflexion rationnelle et pas émotionnelle sur le projet, parce qu'on pourrait se dire, il y a telle grande distribution qui veut nous référencer, allez, on y va, on prend, etc. Non, ça va dégrader notre image de marque, ça va pas aller dans le sens de notre mission. Ouais. Et en fait, c'est bold quelque part, c'est très fort et être très affirmé. Mais c'est ça aussi être dirigeant et être entrepreneur. Et bravo pour ça, parce que on pourrait vite répondre à des sirènes qui déviraient d'un cap qu'on pose quelques mois avant. Ok, très très bien. Donc ce projet, il va sortir quand ce projet industriel ?
faut qu'il sorte à SAP hein, maintenant.
Ok, c'était hier.
Ouais, non, on aimerait. Là, l'idée, c'est de dimensionner l'usine, de savoir ok, combien de machines on doit acheter précisément, quel foncier on a besoin, quelle première équipe on aurait besoin, quel profil, etc. L'idée, c'est vraiment de le lancer en 2024. Bah, en fait, on a déjà acheté notre première machine, en fait, il y a 3 mois.
D'accord.
On l'a acheté suite à notre passage en fait sur M6, où là vraiment on s'est pris, enfin il y a eu plusieurs milliers de commandes en quelques heures et on s'est dit bon en fait là il faut qu'on avance.
Le site n'a pas planté.
Non, le site n'a pas planté. Ouais, on était Shopify, super. Non, le site n'a pas planté, tout nickel. C'est juste qu'en termes de produits, on suivait pas du tout. Donc, ça a été compliqué de passer cette vague.
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, vous êtes passé dans quelle émission ?
On est passé dans l'émission 66 minutes. Il faisait un format pour suivre le salon Made in France. Et on, bah, du coup, c'était notre deuxième édition au salon Made in France. Et il suivait 4 marques. Et nous, du coup, on en faisait partie. C'était pas du tout prévu. Donc, on l'a su quelques jours avant.
Et c'est eux qui vous ont contacté ou...
Oui, c'est eux qui nous ont contactés, demandé les contacts au salon. Et ils nous ont écrit quelques jours avant. Et on a commencé le tournage le mercredi. Le salon a démarré le jeudi, diffusion le dimanche. Donc, aucun moyen d'anticiper, mais c'était super intéressant.
Là, pour le coup,
Et du coup, on s'est dit, OK, go, on achète une machine, on voit ce que ça donne et on tentera. Là, elle vient seulement d'être paramétrée, donc ça a pris du temps.
Ça a pris du temps, ouais.
Mais bon, c'est le début.
Vous êtes rentable ?
Oui, on est rentable. Le fait que aussi on soit en rupture de stock, on ait fait du coup de la précommande, en fait, ça a permis aussi de faire pas mal de ventes sans nécessairement investir beaucoup en marketing. Donc oui, on fait un peu de pub, on aime bien la création de contenu, la com, etc. On fait de l'email aussi, on a bien développé l'emailing. Mais oui, du coup, ça, les médias, en fait, ont fait que ça a fait quand même un gros accélérateur.
Bah, ça confirme.
Fermé, en fait.
Ça confirme tout ce qu'on dit à nos clients. Les parts de voix précèdent les parts de marché. Donc, effectivement, si vous êtes visible, ça va derrière générer du trafic et de la commande. Ok, donc ce projet qui doit sortir, j'ai compris l'impatience que tu as autour de ce projet. Quoi d'autre dans les tuyaux ? Qu'est-ce qui est prévu ?
Après, c'est de trouver le juste équilibre entre continuer d'être assez ambitieux sur la marque, donc vraiment signe la croissance, de se structurer. Là, on ressent aussi le besoin, nous, d'être plus dans l'équipe, d'avoir des gens un peu plus seniors, de construire une vraie équipe. Donc là, c'est les enjeux là, à très court terme, pour justement anticiper en fait la croissance qu'on veut, un objectif de faire x3 là la saison prochaine, mais la saison prochaine c'est dans quelques mois, donc il faut qu'on anticipe.
Oui.
On a aussi d'autres médias qui vont arriver, donc il faut qu'on prépare la suite. Donc d'un point de vue recrutement, développement de nouveaux produits aussi, parce que pareil, on a beaucoup de demandes encore, donc on a pas mal de choses à faire, pas mal d'idées produits à développer. La R&D.
Une levée de fonds ?
Forcément, du coup, pour le projet industriel, il va falloir une levée de fonds. Nous, c'était quelque chose au début, on s'était dit non, pas de levée de fonds.
Oui, ce que j'ai cru comprendre.
On voulait lancer la. Enfin, on tient énormément à notre indépendance. Enfin, en tout cas, c'est super important. Mais en fait, pour lancer une usine, on ne va pas avoir d'autre choix que d'avoir des fonds.
Oui, il faut des fonds.
Donc, ce qui est super cool, c'est que du coup, la région, la BPI, les banques, etc., sont très supportrices. Donc là, on est en train justement de voir, en fonction de dimensionnement de l'usine, on va voir du coup qui investit à quelle échelle.
Vous avez quel âge ?
On a 28 ans.
Voilà, c'est beau, hein. C'est beau, un beau projet à 28 ans, déjà mature, non, mais enfin, dans la réflexion. Et écoute, c'est top, on va suivre le développement de Signe. Il va être temps de conclure, on arrive déjà à la fin. J'ai encore 2-3 questions pour toi. La première, c'est ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur ?
Alors, entreprendre, pour moi, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques, oser se lancer. Accepter de ne pas avoir toutes les clés en main avant de prendre une décision, avant de faire les choses, de passer à l'action. Surtout le passage à l'action, hyper hyper important. En fait, pour moi la réflexion, c'est ok, c'est hyper important et ça permet de structurer et de se dire ok, on va dans le bon sens, mais en fait le passage à l'action, c'est 90% de ce qui fait que ta boîte va exister, va se développer, va fonctionner. Donc ça, hyper important, ne pas trop se poser de questions. Là, le projet industriel, on se pose beaucoup de questions. Bah, des fois, il faut fermer les yeux, il faut y aller.
Allez, on y va, on verra, voilà, on apprendra en
marchant. Et être entrepreneur, pour moi, c'est mettre son ego de côté, très, très souvent. Il faut accepter les retours, que ce soit client, les retours de l'équipe, les retours de nos partenaires. En fait, il faut toujours accepter des visions différentes, des retours constructifs et être en capacité de changer d'avis et de changer de cap, même s'il faut, bon, bien sûr, dans une moindre mesure, si ça change complètement la proposition de valeur de la boîte, il ne faut pas le faire, mais si on est profondément convaincu. Mais ça, c'est hyper important de mettre son ego de côté, d'être à l'écoute, d'être empathique, de comprendre et aussi... Être entrepreneur, c'est savoir prendre des décisions. L'immobilisme n'est pas bon du tout. Même si on se plante, même si on prend la mauvaise décision et on s'en rend compte quelques semaines, quelques mois plus tard, il faut la prendre la décision et il faut avancer. C'est le plus important.
Bon, bah écoute, s'il y a une deuxième édition du livre « Comment t'as fait ?», je reprendrai tes citations parce qu'elles sont parfaites, impeccables.
Quel honneur, merci.
ok, bah écoute, merci. T'es la première à parler d'ego. Tu vois, ouais. Quand je pose cette question-là, j'ai fait plus de 130 épisodes. Tu vois, à revenir sur ça et dire, accepter aussi ça, parce que souvent on me dit, faut foncer, et puis ça suit ou ça suit pas derrière. Et toi, tu as cette vision de, être entrepreneur, c'est toi qui dois composer avec les autres finalement. Ouais. Parce que, tu vois, on parle souvent sur le podcast de dire, entreprendre, c'est être libre. En final, non, parce que tu as des collaborateurs, tu as des clients, tu as des fournisseurs, tu as un marché, tu as des concurrents. Et en fait, tout ça fait que, au final, tu as l'impression souvent d'être libre et ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà comment je le relis par rapport à ce que tu dis. Toi, maintenant, qui as vécu l'expérience du podcast « Comment t'as fait ?», quel entrepreneur au masculin ou au féminin que tu connais et avec qui tu pourrais me mettre en relation, tu me recommanderais d'inviter ?
Voilà, il faut que je réfléchisse un peu.
Et qui n'est pas passé sur le podcast, parce que Spring...
Oui, bah c'est ça. comme c'est difficile, on n'a pas beaucoup aussi de réseau, mais je vais essayer. S'il y a une entrepreneur... Bah forcément, je vais conseiller une femme entrepreneur.
Oui, avec grand plaisir.
Audrey Paris, fondatrice de XOXO.
D'accord.
Qui est en fait une marque de protection hygiénique pour adolescentes. En fait, elle a une histoire personnelle hyper intéressante et en fait, elle a du coup lancé ça pour justement parler aux ados qu'elles aient leur kit première règle. Elle est déjà lancée en grande distrib. Justement, on va essayer de l'accompagner sur le e-commerce, etc. On s'est rencontrés parce qu'on a intégré le même accélérateur. Et c'est une mission qui est hyper intéressante, qui est pour les femmes. Voilà.
Écoute, je prends avec grand plaisir si tu peux nous mettre en contact. Avec plaisir. Je l'inviterai sur comment t'as fait. Un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs ou qui souhaiteraient le devenir.
Je pense que, pour les personnes qui souhaiteraient se lancer, je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions, arrêter de se trouver des excuses, y aller, faire les premières étapes, même si on les fait mal, c'est pas grave. Et après, je pense que c'est nécessaire de s'entourer, d'échanger avec des personnes qui l'ont fait, parce que c'est ce qui nous a permis, nous, d'avancer, d'aller assez vite sur les prises de décision, etc. Des fois, on s'est pas trop posé de questions et on a plutôt fait confiance. Et c'est hyper important, au final, quand on ne sait pas... d'échanger avec quelqu'un d'autre qui sait.
Super, et merci beaucoup pour ton partage d'expérience.
Merci à toi.
Et je suis sûr que ça va nourrir plus d'une auditrice et d'un auditeur. pour toutes celles et tous ceux qui veulent te suivre, ils te retrouvent sur LinkedIn ou sur le site web directement, donc signe.co, CYGNES.co. C'est bon.
Exactement.
Et puis, ravi de cette belle rencontre initiée par la Technopole de l'Aube en Champagne qui soutient cet épisode spécial et chaque année au travers de son événement Plug and Start. Récompense et accélère les entrepreneurs. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site plugandstart.com. On fera apparaître le lien à l'écran. Candidatez vite pour tenter de gagner 3 à 6 mois sur l'avancée de votre projet et être accompagné par des chefs d'entreprise et des experts expérimentés. À très vite. Bye.
C'était « Comment t'as fait ?» les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.